Chapitre 20. Tous ensemble, la société. Dans ce chapitre, la vie politique, l'Europe, la justice, les grands débats. La société est un organisme complexe dont l'existence fragile repose sur la coopération, même minimale, entre ses membres. Pour ce faire, il faut une organisation politique. La nôtre est la démocratie, élargie à l'Union européenne. Des garants, aussi, comme une justice indépendante. Des débats, enfin, sur ces fameux projets de société qui opposent un temps avant de réunir le plus souvent. La démocratie. Quel terme magnifique. Mais depuis les cités grecques qui ne la pratiquaient guère, tout du moins suivant notre acception actuelle, qu'est-elle devenue? Un bref séjour au fond des geôles nous permet de comprendre tout ce que nous devons aux Britanniques, de la Magna Carta à l'habeas corpus. Ces termes ne vous évoquent rien? Précipitez-vous sur ce qui va suivre afin de savoir pourquoi, sans ces textes fondateurs, notre liberté ne vaudrait pas bien cher. Puis, poursuivons ce tour d'horizon avec nos propres institutions. Président, ministre, assemblée sont convoqués devant le peuple souverain pour lui rendre des comptes. Aujourd'hui, notre cadre de référence n'est plus le seul hexagone, mais l'Europe, c'est-à-dire ici l'Union européenne. Dans quel moment difficile est-elle née? Comment a-t-elle pu s'adapter, s'élargir, ouvrir nos mentalités tout autant que l'espace? C'est ce que vous allez découvrir à travers histoire, institutions, fonctionnement. La justice effraie souvent par la complexité de ses rouages et la rudesse de son vocabulaire, réservé, croyez-vous, aux initiés. Adoucissons l'inexorable. Partons de chambre en juridiction, d'appel en magistrature afin de découvrir son fonctionnement et, sous les robes et les hermines, les hommes et femmes qui chaque jour nous sauvent des ravages inouïs des vengeances et guerres privées. Enfin, rendons hommage aux combats sociétaux qui font progresser les groupes humains au prix parfois d'affrontements lors de grands débats sur des thèmes forts, comme la peine de mort, l'interruption volontaire de grossesse, l'euthanasie, le mariage et le droit d'adoption pour les couples homosexuels. La démocratie. La démocratie au sens originel est un régime politique où le démos, le peuple, exerce le pouvoir, ou kratos, sans distinction de naissance, de statut social, de capacité ou de sexe. Ce pouvoir souverain est délégué par le vote, c'est-à-dire par un mandat représentatif confié pour une période plus ou moins longue, renouvelable ou pas. Les autres critères essentiels de la démocratie sont la liberté des élections, l'indépendance des médias, l'existence d'une opposition libre de s'exprimer, l'alternance au pouvoir des différents camps politiques majoritaires à leur heure et un système judiciaire indépendant. Mais avant d'examiner comment la démocratie fonctionne en France, penchons-nous sur ses origines. La longue marche vers la démocratie. Née à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie est à l'origine réservée à l'élite restreinte des seuls citoyens. Il faut attendre le 18e siècle pour que la séparation des trois pouvoirs traditionnels, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, soit véritablement conceptualisée et dans une certaine mesure mise en place. Réduite à la portion congrue entre pouvoir temporel incarné par le roi et pouvoir spirituel incarné par le pape, la démocratie connaît une longue éclipse avant de renaître après la Révolution française et de s'épanouir au long des 19e et 20e siècles. La démocratie athénienne. À l'avènement de la démocratie, son modèle fondateur repose sur deux assemblées de citoyens. L'Ecclésia, qui réunit les citoyens sur la colline de la Pnyx pour voter les lois et parfois la guerre, et la Boulé, composée de 500 citoyens en charge d'administrer la cité et de veiller à l'exécution des lois. Deux tribunaux se chargent de la justice, celui de l'Aréopage où siègent les anciens et l'Élier où siège le peuple. Les magistratures sont civiles, les archontes, ou militaires, les stratèges. À la différence d'aujourd'hui, la démocratie athénienne ne fonctionne que pour un petit nombre de citoyens, véritables élus du système politique. Elle s'effondre quand, avec Alexandre le Grand, la Grèce cesse d'évoluer dans un cadre strictement national. La démocratie anglaise. Le premier pas vers la démocratie moderne est effectué en Angleterre, où, en 1215, le roi Jean sans Terre, qui règne de 1199 à 1216, accorde la Magna Carta, c'est-à-dire la Grande Charte. Celle-ci affirme le tout premier contrôle exercé sur la monarchie, la garantie de droit, et ébauche des réformes qui conduiront à la naissance du Parlement. Ce n'est pas le choix d'un roi puissant et convaincu de la justesse de son choix, mais un texte imposé à un souverain politiquement affaibli, incapable de s'y opposer. Les promoteurs de cette charte, bourgeois, barons, évêques, imposent leur droit d'intervenir dans les affaires de la monarchie.
N'oubliez pas que tu es le corps. C'est en 1679 qu'il faut situer le tournant fondamental pour les démocraties occidentales dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, par une révolution dans le domaine du droit individuel. Jusqu'à cette date, la justice, qu'elle soit seigneuriale, royale, ecclésiastique, s'exerce sans reconnaître au justiciable le plus fondamental des droits, celui d'être jugé. Imposeurs de collets sur les terres seigneuriales ou royales, un clerc débauché peuvent moisir en prison pendant des mois, des années, parfois une vie entière, sans que le seigneur détenteur du droit de justice, l'officier royal, l'officialité ou tribunal de l'évêque ne s'intéresse à lui. Le pire est de finir totalement oublié dans un cul de basse fosse. D'où l'importance des requêtes déposées par famille ou amis, qui distribuent les fameuses épices, pots de vin, afin que leurs proches sortent de l'oubli judiciaire et finissent par être jugés. Avec le vote de la loi d'habeas corpus, en 1679, l'Angleterre donne au monde la plus belle leçon de droit individuel. Désormais, tout homme est présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par des preuves et un jugement le condamnant rendu. Il ne peut donc être emprisonné sans jugement et sans preuve. C'est d'ailleurs le double sens à donner à l'expression latine choisie par les clercs. Habeas corpus signifie littéralement que tu es le corps. Au double sens de que tu sois maître de ton corps, donc impossible à emprisonner abusivement, et que tu aies le corps intact, sans torture, pour être présenté au tribunal et jugé de manière impartiale. Rappelons, pour nous aider à mesurer l'ampleur de cette réforme, que de nombreux pays, dont la France, pratiquent la torture comme méthode courante d'investigation et d'obtention des aveux, avant de l'appliquer une nouvelle fois comme châtiment après un jugement, jusqu'à la Révolution française de 1789.
Cinq grands thèmes sont développés. Tout d'abord, l'interdiction faite au roi de lever des impôts sans le consentement du Grand Conseil formé de seigneurs, représentants du clergé et de la Cité de Londres. Puis, la garantie des libertés et franchises des villes. L'interdiction d'emprisonner un homme libre sans jugement. Le droit à la révolte contre un souverain qui violerait la charte. Et enfin, le respect et la garantie des libertés de l'Église. The Bill of Rights, en 1689, ou la Déclaration des droits, voit le jour après la glorieuse révolution qui met fin au règne du catholique intolérant et tenté par l'absolutisme, Jacques II, qui règne de 1685 à 1688. Contraint de fuir en France, il est remplacé sur le trône d'Angleterre par sa fille Marie II et son époux Guillaume d'Orange ou Guillaume III. Mais le Parlement formé de la Chambre des communes et de la Chambre des lords, échaudé par le règne précédent, exige des garanties. Les nouveaux souverains doivent signer et jurer de respecter le Bill of Rights qui restreint considérablement encore leur pouvoir. Le roi ou la reine ne peut lever une armée, décider des impôts, empêcher le vote des lois et doit être garant d'élections libres et justes. Donc, depuis 1689, tout nouveau souverain, s'il veut pouvoir régner, doit au préalable jurer de respecter le Bill of Rights. La République française. C'est la Révolution française de 1789 qui donne naissance le 21 septembre 1792 à la Première République. Fondée sur l'égalité entre les citoyens, affirmée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, elle marque les débuts de la démocratie en France. C'est une république éphémère, successivement remplacée par le Directoire en 1795, le Premier Empire en 1804, la Restauration de 1815 à 1830 et, pour finir, par la monarchie de Juillet de 1830 à 1848. La Seconde République, qui se voulait sociale et égalitaire, est elle aussi bien brève, de 1848 à 1852 seulement. Ensuite, l'empereur est de retour. Il ne s'agit pas de Napoléon Ier, mais de son neveu Napoléon III, qui règne entre 1852 et 1870 sous le Second Empire. Suit une période incertaine. L'assemblée constituante élue hésite entre un nouveau roi, un nouvel empereur et la République, qui triomphe de justesse avec le vote des lois constitutionnelles de 1875. Naît la Troisième République, balayée en 1940 par l'humiliante défaite que l'armée allemande inflige à la France au début de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Mise sous l'éteignoir par le gouvernement collaborationniste du maréchal Pétain pendant toute la période de l'occupation, elle renaît de ses cendres à la Libération en 1944. Commence alors la Quatrième République, marquée par les Trente Glorieuses, la guerre froide et la décolonisation. C'est d'ailleurs la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 qui hâte sa fin. Le général de Gaulle revient aux affaires et fonde en 1958 la Cinquième République.
Le saviez-vous? Le père de la veuve. C'est durant la terreur imposée par le gouvernement révolutionnaire de Robespierre que la guillotine fait son apparition. Régulièrement déplacée en raison des plaintes des riverains incommodés par le défilé continuel des victimes, la veuve, comme on la surnomme, inspire un vif effroi. Au départ, son inventeur, le docteur Joseph Ignace Guillotin, est pourtant animé de bonnes intentions. Pour lui, la guillotine est d'abord un moyen plus humain d'exécuter les condamnés à mort. Il faut dire qu'avant lui, il arrivait au bourreau de s'y reprendre à plusieurs fois avant de trancher une tête à la hache ou à l'épée. En elle, le républicain guillotin voit aussi un instrument égalitaire qui coupe la tête de tous à l'identique, quand sous l'ancien régime, les nobles et les gens du commun mouraient selon leur rang. Aux uns le billot, aux autres le gibet, le feu ou l'écartèlement. Active dès 1792, la guillotine le restera jusqu'en 1977, puis regagnera sagement le musée de la Conciergerie, après l'abolition de la peine de mort en 1981.
La Cinquième République. La Constitution de 1958 adoptée par le référendum du 28 septembre définit le cadre d'exercice de la vie politique française. Elle se compose d'une centaine d'articles répartis en 16 titres ou thèmes généraux et est précédée d'un préambule qui réaffirme les principes fondamentaux qui ont présidé à son élaboration. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution d'octobre 1946, repris par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. En 2005, y est ajoutée une charte de l'environnement. En juillet 2008, le Congrès Réunion des deux assemblées à Versailles vote la modification de la Constitution afin de rééquilibrer les pouvoirs entre exécutif et législatif. Elle peut être révisée par l'organisation d'un référendum soumis à la nation ou par voie parlementaire. Assemblée nationale et Sénat se réunissant ensemble en Congrès à Versailles. Depuis 1958, les révisions constitutionnelles ont été les suivantes. En 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. En 1974, la réforme du Conseil constitutionnel. En 1992, l'adaptation aux dispositions du traité européen de Maastricht. En 2000, le passage du mandat présidentiel du septennat au quinquennat. En 2008, l'adaptation aux dispositions du traité européen de Lisbonne et la modernisation et le rééquilibrage des institutions. Les institutions françaises. Garantie constitutionnellement, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire constitue les fondements de la démocratie française et permet, du moins en principe, le bon fonctionnement de ces institutions. Lorsque l'exécutif veille à l'exécution de la politique générale, à celle des lois promulguées, le législatif propose des projets de loi, les vote, tandis que le judiciaire veille au respect des lois en vigueur par la sanction des contrevenants. Dans la Constitution, la définition de l'exercice de ses pouvoirs est ainsi donnée par le titre 2, le président de la République, articles 5 à 19, le titre 3, le gouvernement, articles 20 à 23, le titre 4, le Parlement, articles 24 à 33, le titre 8, de l'autorité judiciaire, articles 64 à 66. L'ensemble est placé sous l'égide du Conseil constitutionnel. C'est le titre 7, articles 56 à 63, à qui revient de veiller au respect de la Constitution. Le président de la République. Le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct et, depuis la réforme de 2008, ne peut effectuer plus de 2 mandats consécutifs comme sur le modèle américain. Il nomme le Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, il nomme les autres membres du gouvernement. Ses autres prérogatives sont la présidence du Conseil des ministres, la promulgation des lois, la soumission de propositions à la nation par référendum ou consultation directe du corps électoral, appelé à répondre par oui ou non à une question posée, le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, la responsabilité de chef des armées. L'exercice en cas de crise grave des pouvoirs exceptionnels, la disposition du droit de grâce uniquement à titre individuel depuis la réforme de juillet 2008, ce qui exclut les grâces collectives comme autrefois à l'occasion du 14 juillet, la possibilité depuis la réforme de juillet 2008 de venir s'exprimer devant le Parlement réuni en Congrès. Le gouvernement. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement. Un gouvernement est formé du Premier ministre et des autres ministres en nombre variable, en général autour d'une 30aine de personnes. Le Premier ministre est obligatoirement le chef du parti ou du groupe de partis alliés qui a remporté les élections législatives. Ceci explique le phénomène de cohabitation connu en France par exemple entre 1986 et 1988 avec un président de la République, François Mitterrand, socialiste, et un Premier ministre, Jacques Chirac, du Rassemblement pour la République, parti de droite. Pour les aider dans leurs tâches, les divers ministres disposent tous d'un cabinet, de conseillers techniques et hauts fonctionnaires parfaitement au fait des dossiers du ministère. Cette structure, en grande partie permanente, explique le passage possible de l'agriculture à l'éducation nationale. Le ministre concerné n'a pas à être un spécialiste. Il détermine une politique que les hauts fonctionnaires spécialisés, eux, se chargent de mettre en application. Le gouvernement se réunit tous les mercredis matins au cours du Conseil des ministres, présidé par le président de la République ou, en cas d'empêchement, par le Premier ministre. Le Parlement. Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct, le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. Les 577 députés de l'Assemblée nationale sont élus pour 5 ans. Les sénateurs pour 6 ans, renouvelables par moitié tous les 3 ans. Les 577 députés de l'Assemblée nationale sont élus pour 5 ans. Les sénateurs pour 6 ans, renouvelables par moitié tous les 3 ans. Le Parlement siège de début octobre à fin juin. C'est ce que l'on appelle la session ordinaire. Si le calendrier législatif l'exige, le Premier ministre peut demander des jours supplémentaires de séance, les sessions extraordinaires. Le Parlement vote les lois qui sont proposées par ses membres ou le Premier ministre. Le projet de loi est présenté à l'Assemblée nationale, qui l'examine, dépose des amendements, modifications destinées à l'améliorer, puis envoie le projet au Sénat, lequel, à son tour, examine et amende. Le trajet aller-retour de la future loi entre les deux assemblées s'appelle la navette parlementaire. En dernier ressort, la décision finale revient toujours à l'Assemblée nationale qui vote la loi définitive. Le Parlement vote également le projet de loi de finances qui détermine le montant et la forme de collecte de l'impôt, ainsi que l'usage qui en sera fait et la dotation de chaque ministère. L'article de la Constitution qui donne le plus de pouvoir à l'Assemblée nationale et paradoxalement lui en retire aussi le plus est l'article 49. Il stipule à la fois que l'Assemblée peut voter une motion de censure contre le gouvernement, il faut qu'elle soit demandée par au moins 10% des députés et votée à la majorité, fréquemment déposée la motion de censure n'a fait depuis 1958 chuter qu'un seul gouvernement, celui de Georges Pompidou en 1962. Il stipule également que le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. C'est le fameux article 49.3. Cela signifie que le texte est considéré comme adopté, sans délibération, ni amendement, ni vote, sauf si une motion de censure est adoptée. Le 49.3 est utilisé par tout gouvernement qui veut faire adopter rapidement une loi sans discussion. La réforme de juillet 2008 limite son utilisation au budget de l'État et de la Sécurité sociale, plus un autre texte par session. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel comprend 9 membres dont le mandat dure 9 ans et n'est pas renouvelable, et se renouvelle par tiers tous les 3 ans. 3 des membres sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat. Il faut ajouter à ces 9 membres nommés les anciens présidents de la République qui sont membres de droit à vie du Conseil constitutionnel. Celui-ci veille au bon déroulement, à la régularité des élections et à la constitutionnalité des lois. Dans toute démocratie, en effet, la Constitution est supérieure aux lois. Puisque celle de 1958, dans son préambule, inclut la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aucune loi, par exemple, ne peut contrevenir à l'article 1 de la Déclaration qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Par la réforme de juillet 2008, tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel après que le Conseil d'État ou la Cour de cassation l'a jugé utile.